La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici Pierre-Yves McSween.
Voici une personne qui s'intéresse à la campagne électorale, notre chroniqueur Pierre-Yves McSween, qui a pris le temps de regarder, évidemment avec son angle, c'est-à-dire l'argent, la fiscalité, les taxes, l'économie, les promesses électorales du Bloc québécois. Qu'est-ce que tu as trouvé?
Un, évidemment, c'est un document un peu détaillé parce qu'on dit « on va vous revenir plus tard ». Puis pour l'instant, on vous lance des idées. Mm-hmm. Alors, c'est une bonne stratégie de communication, mais le Bloc a cet avantage de pouvoir promettre qu'ils vont défendre des positions sans avoir vraiment à les chiffrer ni à les exécuter. Alors, ça donne certaines propositions, comme par exemple taxer les fortunes. Envoyer ça dans les airs, taxer les fortunes, donner un impôt supplémentaire aux grandes fortunes, c'est pratique. Mais dans les faits, ça veut dire quoi? Je donne des exemples extrêmes. Une personne qui a une maison de 20 millions, elle a une fortune, mais le gain non réalisé, puis le gain capital sur les maisons n'est pas imposable si tu le choisis. Alors la question, c'est est-ce une grande fortune? D'un autre point de vue, tu pourrais avoir quelqu'un qui a des REER avec des millions, est-ce une grande fortune? Est-ce qu'une personne de 20 ans avec 200 000 est une grande fortune? Une personne de 60 ans avec 700-800 000?
Toi, tu trouves qu'on n'est pas assez précis sur la notion de riche?
Bien, la grande fortune, c'est parce... Je donne un exemple. Si j'ai des placements privés dans la vie, c'est pas évalué à tous les jours. Donc, pour évaluer un placement privé, il faut faire affaire avec une firme d'évaluation. Ça coûte de l'argent, mais on n'a pas l'argent tant qu'on n'a pas vendu les actions. Et donc, est-ce qu'on va taxer une entreprise privée qui peut perdre de la valeur parce que c'est une grande fortune? Et si j'ai 4-5 sociétés de portefeuille qui détiennent des intérêts dans des entreprises, jusqu'où va l'actif de la personne ou la richesse de la personne? Donc, on fait juste dire on va taxer les grandes fortunes, mais on ne sait pas c'est quoi une grande fortune, ni comment, puis on passe pas le test de la réalité. Si on dit, par exemple, on va imposer davantage les revenus, ça, c'est clair, on le fait déjà au taux marginal de 53,31% pour les plus élevés. Ça, c'est très, très clair. Mais pour le reste, on s'entend que ça va être difficile dans la réalité. L'autre point, on dit on va suspendre la PCRE, la Prestation canadienne de relance économique, pour certains secteurs ou pour l'ensemble des secteurs qui n'en ont pas besoin, et on s'ouvre la porte à la remettre en place. Ça, c'est quand même quelque chose qui est pragmatique. On peut leur donner. Au niveau des aînés, évidemment, c'est très payant de donner de l'argent aux aînés. On dit on va augmenter les prestations pour les aînés de 65 ans et plus. Ils représentent quand même un bon pourcentage de la population. Hein. Depuis 2015-2016 au Canada, c'est la première fois qu'on a plus de personnes de 65 ans et plus que de moins de 15 ans. Donc, c'est fort dans le poids électoral. Après ça, on se dit, on veut faire une péréquation verte. C'est-à-dire favoriser les provinces qui polluent moins. Évidemment, on a l'hydroélectricité au Québec, puis on reçoit de la péréquation déjà. Alors là, il y a le choc de la réalité. Parce que si le Bloc propose de mettre une péréquation verte, c'est-à-dire favoriser les provinces qui ont de l'énergie verte, pénaliser celles qui ont de l'énergie sale, ça veut dire aussi, comme Québécois, il faudrait peut-être refuser la péréquation qui vient d'énergie sale. Alors, je m'en vais voir.
Mais tu sais que ça, c'est les pro-pipeline, c'est comme on dit, l'argument numéro un. Tu prends mon argent, mais tu veux même pas que j'en fasse pour t'en donner un petit peu.
Mais la proposition, c'est en plus, tu prends mon argent, puis tu veux me pénaliser d'en faire plus.
Exact.
Je donne un exemple. En 2021-2022, selon les calculs du gouvernement du Canada, la péréquation du Québec, c'est 13 milliards qu'on reçoit. L'Alberta, zéro. C'est dans la péréquation. Donc, évidemment, on est des receveurs nets de péréquation. C'est sûr qu'il y en a qui disent, oui, on paye de l'impôt. Oui, oui, oui. Mais comprenons que le système de péréquation nous favorise au Québec. Par capita, on a le double de d'autres provinces. Mais, on veut profiter de notre avantage vert pour taxer davantage ceux qui nous envoient de la péréquation. D'un point de vue théorique, écologique, je comprends. Ça se défend. Mais d'un point de vue entente canadienne, respect des provinces et maintien du fédéralisme canadien, ça va être difficile. Solidarité avec les personnes malades. Bon, là, on dit, on veut que tout le monde qui a une maladie grave, par exemple, ait 50 semaines d'assurance-emploi. Ça peut amener certains débordements, comme par exemple, tous ceux qui ont d'assurance privée de leur entreprise, qui ont des REER, des CELI, des placements.
Là, je suis pas d'accord avec toi, par exemple, parce que j'ai vu tellement de cas de gens qui ont eu des cancers, des gens qui n'ont pas d'assurance ou des gens qui, petits revenus, là, puis qui doivent aller suivre des traitements, puis que là, à un moment donné, ils ont plus d'argent, puis c'est là. Je veux dire, il y a un minimum. Là,
c'est sûr qu'on commence. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a ça d'abord.
Ouais.
Donc, ça devrait être résiduel. Ça veut dire, si un peu comme l'assurance maladie, si t'es pas couvert par ton employeur ou par une assurance quelconque, tu aurais ça en dernier recours. Tu me suis?
Ouais.
Donc, de dire, de faire un ordre séquentiel, de dire, si t'as 5 millions, de, tu sais, si t'as 2 millions de placements, des assurances privées, un CELI, que t'as une assurance de ton employeur, ben, on t'enverra pas de chômage. Mais si t'es démuni, t'as rien, t'as des conditions salariales minimales pis t'as pas de couverture sociale avec quelconque ressource, là, on te l'envoie. Mais de le faire universel, je pense que c'est quand même, ça amène certains débordements. Le rapport d'impôt unique, ça, écoute, personne peut être contre la vertu du rapport d'impôt unique, de la déclaration de revenu unique. Le seul hic, c'est qu'évidemment, le Bloc, dans un nationalisme économique, veut le ramener au Québec. Mais dans un processus opérationnel optimal, la déclaration unique devrait être, là, je vais dire, attends, je marche sur des œufs, tu vas l'entendre craquer, devrait être au fédéral parce qu'eux développent déjà des logiciels, des centres d'appel, des centres de distribution, des centres d'analyse pour le Canada au complet. On a beau dire, si on fait une déclaration unique à Revenu Québec, ça veut dire qu'on va avoir deux entités canadiennes qui vont faire le processus encore, mais nous, comme Québécois, on va l'envoyer une seule place. Mais ça va quand même donner la réalité suivante. On va payer deux processus qui font exactement la même chose. La preuve, présentement, vous pouvez être enquêté par les deux niveaux de gouvernement. Ils vont se parler, puis les deux vont vous appeler, les deux vont vous communiquer, puis les deux vont vous enquêter. Alors, ça n'a pas
de
sens.
C'est parce que politiquement, tu ne peux pas envoyer ton argent à Ottawa en disant tu nous feras un chèque quand tu auras fini les calculs. Là.
Surtout si tu es un parti souverainiste, ça ne marche pas. Ben, on va s'entendre. C'est peut-être pour ça.
Merci, monsieur. Bonne journée. Salut.
C'est 23.